jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous, c'est parti pour l'After, ravi de vous retrouver en ce lundi pour les avis tranchés qui concernent la Ligue 1, pour les avis tranchés du foot européen, pour vous accueillir au 32-16 sur le hashtag RMC Live, évidemment jusqu'à minuit, avec comme tous les lundis, Daniel Riolo, salut Daniel.
Salut les amis.
Et Pierre Ducrot, salut Pierre.
Bonsoir messieurs.
Bon, on va revenir sur le titre du PSG, évidemment, parce qu'on n'est pas blasé. Voilà, c'est quand même le sentiment qu'on a depuis hier, le PSG champion, mais
on dirait pas ce que j'essaye de te persuader.
Non, mais c'est quand même étonnant, je trouve, le traitement qu'il y a de ce titre du PSG. Les saisons précédentes, le titre en France, ça prenait des proportions énormes. On en faisait des émissions spéciales. Enfin, c'était quelque chose, quoi. Ouais. Là, c'est pas trop le cas, quand même. Alors, est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que c'est la faute du club? Est-ce que c'est la faute des supporters?
Il y a plein de choses.
Je pense que la vie tranchée de Daniel va être autour de ça, effectivement.
Malheureusement, c'est pas que de notre faute, je pense.
Oui, t'as raison. Pierre, toi, tu parleras de Dimitri Payet. Ce sera ton avis tranché dans quelques minutes. On pourra s'attarder à ce moment-là sur la bataille pour le podium qui est peut-être relancée avec la défaite de Monaco hier. Et puis, nos drôles de dames seront là. David Lorto va nous dire qui est le favori en Ligue des Champions au moment de débuter ses demi-finales. Philippe Auclair va nous parler du champion Manchester City, évidemment. Et puis, il y aura Fred Hermel, Simone Rovera. C'est l'after du lundi, comme vous l'aimez, avec... Oui, David, Pierre.
Les questions de l'after, non?
Les questions de l'after, bien sûr. Ah, est-ce que
Pierre,
t'en veux une?
Ouais, il lâche rien du sommaire.
Non, mais non, mais Pierre, il est là.
Ah,
non,
oula, attends, il veut dans le sommaire, il n'y a rien qui dépasse.
Exactement. Est-ce que tu veux une petite question?
Surtout quand tu as lu les questions de l'after que...
Non, mais généralement, quand il les envoie après à la réunion, c'est plus toujours les mêmes. Des fois, il fait un peu...
Parce que la dernière qu'on a reçue...
Il te envoie à midi, c'est juste pour côté une indigestion, quoi.
C'est ça, ouais. C'est ça.
Il veut que t'avoles de travers.
Bon, bah, il viendra tout à l'heure, c'est sur Nolan.
Le lundi. Des fois, il mélange entre les émissions et tout. Il sait pas quand il arrive dans l'after, il y a des questions qui passent pas, quand même.
Non, je pose mes questions. Bah, sans peur.
Les poser,
après,
mais...
je me fais accueillir.
T'as pas toujours les réponses, quoi.
Mais ça me fait marrer, moi. Donc, il y a également le lundi le match de Ligue 2. Et le match de Ligue 2, ce soir, c'est un derby. C'est entre Brest et Lorient. Et Xavier Grimaud est sur place à Brest. Salut, Xavier.
Salut, messieurs. Il reste 29 minutes à jouer dans ce derby qui tourne assez facilement, hein, pour l'instant, à l'avantage du Stade Brestois qui mène 2-0. Les buteurs Charbonnier à la 25e. Berthomier juste au retour des vestiaires, belle frappe du gauche dans le petit filet, et Lorient qui vit une sale soirée puisqu'ils sont réduits à 10 depuis la 43e, deux cartons jaunes contre Johan Wissa, l'attaquant. Donc pour l'instant, l'équipe de Mickaël Landreau n'est pas du tout dans son match, et ce serait intéressant ce résultat parce que Brest se relancerait en revenant à un point seulement des éventuels barrages et de la place de 5e. 2-0 donc pour Brest qui est plutôt serein. Il reste 28 minutes exactement à jouer à Francis Pleublé.
Très bien, merci Xavier, on y va.
Première quand même qu'on fasse un jour.
Non, pas première étape.
Si, si. Moi, parfois, toute cette expression de derby à mort galvaudée dans notre football, faudrait qu'un jour, on pose.
Qu'est-ce qu'un derby?
Les seuls vrais matchs qui méritent l'appellation. Pas juste parce que c'est la ville à côté.
Tu m'as pas manqué, toi, hier.
Hein?
Tu voulais pas prolonger ton week-end jusqu'au lundi?
À la base, un derby, c'est quoi?
Entre deux villes.
Normalement, c'est dans la même ville. Après, que par extension, il y ait des villes à côté, il y a aucun problème. J'ai absolument aucun problème avec ça, bien sûr. Saint-Étienne-Lyon est un vrai derby.
C'est un derby quand même pour toi.
Oui, bien sûr, parce que en fait, il faut qu'il y ait une dimension historique, un passé. Il faut qu'il y ait une rivalité qui soit entretenue par une histoire, par de la sociologie, par quelque chose de fort.
T'as une rivalité, mais c'est pas un derby.
Dortmund, c'est un vrai derby. Mais là, par exemple, quand on lui dit Brest-Lorient, c'est mytho.
Moi, je sais pas, Xavier, il y a pas un petit antagonisme.
C'est mytho. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux villes?
Tu veux pas m'aider?
Si, mais c'est pas l'antagonisme le plus fort de la Bretagne entre Brest et Lorient. C'est plus Brest-Guingamp, éventuellement.
Ouais.
Mais voilà, il y a tellement de clubs en Bretagne que il y a un semi-événement.
C'est pas parce que t'as plein de clubs en Bretagne que
c'est
des derbies.
C'est plus un derby.
Ça y ressemble plus parce qu'il y a effectivement un moment une vraie rivalité entre ces deux clubs. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Moi, tu vois, chaque année qu'on me vend le Bordeaux de Toulouse, le derby de
la Garonne.
Mon Dieu. Et puis alors, des fois, on fait pire. Le Bordeaux Nantes, le derby de l'Atlantique.
Oh là 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 là. C'est vrai. On aura des derbies de la France bientôt.
En l'occurrence, le derby de la France, ça peut.
C'est le PSG-OM.
Comme en Italie, tu as le Juve-Inter.
Ouais, mais ça peut être
parce que dans le pays,
tu peux plus appeler ça des derbies.
Non, mais derby, l'expression à la lettre, c'est dans la même ville, on est bien d'accord. Mais qu'une rivalité cristallise et fédère une masse de gens D'accord, évidemment PSG-OM, c'est les deux clubs. Pourquoi c'est derby de France? Parce que c'est les deux clubs qui ont le plus de gens au soutien, comme Juve-Inter en Italie. Ouais. Alors que c'est pas un derby, le vrai derby, c'est Milan-Inter, le seul vrai. Comme Juve-Torino est un vrai derby, Samp Genoa, Lazio Roma.
Alors, histoire de bien comprendre, est-ce qu'il peut y avoir deux clubs de la même ville sans que ce soit un derby? Exemple, si je sais pas, Paris FC PSG.
Ah non, là, alors là pour le coup, ce serait le vrai derby parce qu'il y a une histoire très forte au début. Les deux clubs au début ne font qu'un et ils se séparent et il y a une vraie scission au moment où le PSG part avec la caisse et la section pro et qui renvoie l'autre PSG à Saint-Germain qui doit tout redémarrer à zéro. Mais il n'a quasiment jamais existé. Mais là pour le coup, il y aurait un vrai truc à entretenir là-dessus. Alors que PSG Red Star,
PFC peut encore jouer les barrages.
Ils sont un peu loin. Voilà. Mais il y en a plein comme ça qu'on invente parfois des derbies
Allez-y sur le hashtag.
Des fois, j'entends les trucs de la Côte d'Azur.
Les derbies
et tout là. Oh là 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 là. Entre
Monaco Nice, c'est pas le derby de la Côte d'Azur.
Si, mais pas. Ah. Non, mais des fois on te le vend aussi avec Marseille Nice ou Marseille Monaco. Oui. Alors que Marseille Nice, c'est une vraie rivalité. Mais ça n'a pas l'appellation derby.
Donnez-nous sur le hashtag RMC Live les derbies les plus galvaudés. On peut faire ça.
Et à l'inverse, le vrai qui a une dimension historique sociologique, c'est Saint-Etienne-Lyon.
Ah oui,
ça vraiment.
Ouais,
ça,
oui,
Lance-Lille. Ça vraiment. C'est bon, Lance-Lille.
Lance-Lille aussi, oui.
Mm. Bon, très bien. Compiègne-Beauvais. Oui, tu ne sais pas ça, mais oui. Bien sûr. Allez messieurs, donc on y va pour le premier avis tranché.
Comme à Londres, s'il doit y en avoir.
Hein,
c'est Tottenham Arsenal. Voilà. C'est là, bien plus que quand on dit derby Arsenal Chelsea. Beaucoup moins, rien à voir.
Avis tranché, on y va.
C'est Jingle important dans le foot de savoir les appellations, les choses, tu vois.
C'est vrai, bon bah autant pour moi, tu veux me rappeler que j'ai fait une erreur il y a 5 minutes.
Pas du tout.
Allez, Jingle Riolo.
C'est pas ta mijaurée.
Moubouze,
Jérôme, 2-2.
Moubouze, qu'est-ce qu'il est nul, lui, en charade. Oh là là. Il jouait où, celui-là?
Il faisait la moue, et puis Mouze.
Il est génial, celui-là, je le connaissais pas.
Mais c'est son, c'est charade, et j'ai perdu.
T'as fourché.
Oui. Non, c'est parce que je lisais les mots sans me soucier de ce que ça pouvait donner.
Ah oui.
Quand on les associait.
Ça a donné Moubouze. Alors. Le titre du PSG, le 7e sacre, alors.
Oui, mon avis tranché était plutôt pour prendre une sorte de petit rendez-vous avec tous ceux qui, à longueur de temps, d'années, et tous ceux qui aiment analyser le foot en ne disant qu'on ne retient que la victoire. Il n'y a que le résultat qui compte. Alors que pourtant, moi depuis... depuis qu'on sait, évidemment, hier soir c'est officiel, mais même avant-hier ou avant-avant-hier, on savait que le PSG allait être champion, si c'était pas hier soir, après la démonstration contre Monaco, peu importe, ça aurait été la semaine dernière. Eh bien voilà, qu'on nous dit, saison mitigée. Eh ben pourquoi donc, messieurs? Pourquoi donc, vous qui arrêtez pas de nous faire chier qu'il y a que le résultat qui compte? Il y a que ça qui est beau, que la victoire, on ne retient que les vainqueurs, On ne retient que le vainqueur. Eh ben alors le PSG, on le retient. Il va tout gagner en France pour la énième année consécutive. Voilà. Mais moi, comme j'ai toujours combattu cette idée, comme j'ai toujours trouvé que c'était une lecture absolument primaire, stupide, bas du front du sport. Parce que pour moi, quand on ne fait attention qu'aux résultats, on n'aime pas le sport. Ça ne nous intéresse pas. Si on n'aime pas discuter de sport, si on n'aime pas analyser les victoires, je sais pas moi, Nadal il a gagné 10 Roland-Garros, il y en a qui sont plus beaux que d'autres, on va pas tous les mettre en bloc les uns derrière les autres. Les 7 titres de Lyon, il y en a qui sont plus beaux que d'autres, on ne retient pas, oh, ils ont tout le temps gagné. Non, il y a des années où c'était moins bien. Eh ben le PSG c'est un petit peu pareil, et tous ceux qui veulent que le sport ne soit qu'en fait des lignes les unes derrière les autres dans une encyclopédie, ben faut pas qu'ils viennent nous faire chier maintenant à dire que le PSG c'était pas bien, ou que la saison est mitigée, ou que ceci ou cela. Si il y a des gens qui étaient dans mon camp avant, dans le camp de ceux qui pensent que le sport ne s'analyse pas uniquement à la lecture des résultats, eh ben je les accepte avec moi ce soir pour dire que effectivement le titre il se termine en apothéose hier. Enfin, il se conclut en apothéose parce que le match était absolument extraordinaire. Ça, bravo, c'est toujours bien, au moins quand tu valides ton titre, de faire un super beau match. Ça, ouais, d'accord. Enfin,
le match extraordinaire, le PSG fait le match parfait. Monaco,
t'as le droit de balayer ton adversaire en même temps.
Ah,
t'as
ouais,
le droit
d'écraser. C'était du non, coup.
Bah, toi, tu fais même la fine bouche sur ce match, alors que moi, au
oui,
moins,
parce que,
en démonstration,
non, pas sur le PSG, c'est pas le match que j'attendais.
Oui, mais
quoi.
Tu fais la fine bouche malgré tout. Ouais. Donc, t'as le droit. Si t'as envie de faire la fine bouche, j'imagine qu'il y a d'autres gens qui font la fine bouche. Voilà. Mais si tu fais la fine bouche, c'est déjà que donc tu n'es pas uniquement dans il y a que le résultat qui compte. Parce que pour moi,
pourtant moi je me rappelle d'une discussion sur Montpellier que vous avez eu tous les deux. Voilà.
Mais je voulais pas le mettre face à ces contradictions.
Mais c'est beaucoup plus c'est beau. Non, vas-y, je vais finir Daniel, mais c'est beaucoup plus
global que ça. Moi, je pense que chaque victoire, chaque titre s'analyse en fonction du contexte, de ton adversaire, de la perspective historique dans laquelle tu inscris ce titre. Eh bien oui, le PSG, à partir du moment où, en matière de communication, ils ont absolument voulu nous dire qu'il y avait que la Ligue des Champions et qu'effectivement, ils étaient plus forts que tout le monde en Ligue 1, bah, de eux-mêmes, ils ont un peu minoré la victoire. Alors après, nous, on a le droit d'être objectifs et de regarder les records, est-ce que c'était plus beau cette année en termes de jeu que l'année d'avant ou qu'il y a deux ans? Et là naissent des débats, mais c'est pour ça qu'on aime le sport. Mais arrêtez de me faire chier avec les lignes de résultats et dire tout se vaut, on ne retient que les vainqueurs, on ne retient que la victoire. Non, c'est pas vrai, puisque tout le monde ne dit que le contraire en permanence. Alors, j'aimerais bien que ça serve, s'il vous plaît, à enterrer définitivement cette phrase, parce que sinon... Marseille, à l'inverse, hier, qui nous a encore proposé un match quand même, fait de rebondissements. En ce moment, ils sont spécialistes de nous proposer des choses très intéressantes. Et ben alors quoi, s'ils font quatrième et qu'ils font finale de l'Europa League? Allez hop, à la poubelle, l'OM, tu nous as rien donné. Mais non, ils vont nous donner une saison, et je l'ai dit la semaine dernière, autant intéressante, si ce n'est plus que celle du PSG.
Avec plus d'émotions déjà pour les supporters.
Merci Jean-Louis. Voilà, donc, si vraiment... un jour, on pouvait enterrer la phrase « il n'y a que le résultat qui compte » ou « on ne retient que les vainqueurs » parce que c'est absolument débile. Hein. Tiens, c'est un petit peu, je sais pas moi, comme le mec qui a absolument voulu une femme magnifique un soir. Allez, on va prendre Miss Monde. Et puis il l'a eu, il l'a obtenu. Il a passé la nuit avec, mais elle était complètement saoule et pas lucide. Il n'y a que le résultat qui compte, il l'a eu. Non ?
Bah non. Je pense que ça...
Bah non.
C'est le même raisonnement, oui.
Hein? Voilà.
Ouais, alors
bonne nuit, chers amis.
Sauf que. Mais globalement, je suis d'accord avec Daniel. Bien sûr qu'on aime le foot et on aime le sport en général pour les émotions, pour vivre des matchs autres que celui d'hier, d'ailleurs. Parce que celui d'hier, en termes d'émotion, il est pas...
Tu peux aussi l'apprécier en termes de beauté esthétique.
Alors beauté esthétique,
quand
peut-être.
Tu vois l'ouverture de d'émotion, le but de Di Maria, c'est beau. Alors quand tu vois le mouvement collectif sur le premier but, c'est très très beau.
C'est très très beau sur le plan technique, c'est très très beau. Sauf que sur le plan émotion, hier au bout de 20 minutes, le match il est plié. J'étais à ta place, Daniel. Honnêtement, c'est loin d'être le match avec plus d'émotion que j'ai vu du Paris Saint-Germain pour gagner un titre. C'est pas la faute du Paris Saint-Germain. Ils ont fait ce qu'il fallait. C'est qu'en face, c'est passé complètement au travers. Ça arrive.
Ok. Ben moi je trouve que ouais, mais attention, passer au travers, j'aimerais bien, sauf qu'ils leur ont collé déjà 3-0 la dernière fois.
Cette frappe, cette
sauf quand même cadré, ça va quand même, tu vois, c'est on a aussi le droit de dire qu'ils ont fait une performance qui a totalement étouffé celle de l'adversaire, où on aurait pu, là, pour en revenir terre à terre au match, à la performance de certains joueurs qui me déçoivent depuis plusieurs semaines, et notamment un qui a longtemps fait partie de mes chouchous, qui l'est toujours, parce que j'adore ce joueur, mais qui en ce moment est pas bon, c'est Thomas Lemar, qui effectivement, quand il y a un gros match, en ce moment, on le voit plus. Il faut aussi le dire quand on le dit sur les autres. Lui, on l'a longtemps défendu. Mm-hmm. Il faut quand même être objectif et voir que cette année aura été très moyenne le concernant. Très moyenne.
En comparaison avec Payet.
Les démonstrations c'est beau. Hein.
Ce que je voulais dire c'est qu'il y a des il y a certains contextes. On peut pas généraliser. En tout cas moi j'ai pas envie de généraliser comme ça. Il y a certains contextes. L'autre fois je crois que on avait eu ce débat avec Nicolas Villas. Et Nicolas Villas en tant que Portugais il a vécu un euro extraordinaire parce qu'à la fin le résultat était là.
Expliqué que ça dépendait du contexte et qu'en l'occurrence ça valait le coup parce que t'avais gagné.
T'as toujours aussi dit qu'à la fin quand il y avait la victoire, c'était le seul argument où tu pouvais défendre qu'effectivement le spectacle à un moment donné ou l'émotion ou la beauté du jeu n'était plus primordial.
Ou quand c'était la première fois. D'un point de vue contextuel, ta première joie.
Je reviens là-dessus.
Parce que là, le Paris Saint-Germain, c'est pas la première fois qu'il est champion. C'est la septième fois, mais c'est aussi une série depuis
que le Qatar est là, c'est un des plus beaux pour, à mon sens. En termes de jeu,
Si. Alors, celui de 2013 pour moi est magnifique aussi, tu vois.
C'est le premier avec Ancelotti.
Ouais. Je l'ai beaucoup aimé aussi parce qu'en termes d'émotion, c'est la première page.
Et peut-être qu'après celui-là, c'est celui de cette année.
Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, ce que je veux exprimer, c'est que c'est qu'à un moment donné, tu peux pas généraliser. Et c'est pour ça que l'autre fois, on n'était pas d'accord. Et on le sera sans doute jamais. C'est que je pense.
Moi, je généralise que chaque contexte doit être analysé.
Ils sont juste pire finir.
Voilà. Je peux pas généraliser parce que je pense qu'il y a des situations qui correspondent à un certain moment avec un certain effet, une certaine équipe ou un certain effectif où tu peux pas être beau et bon. Ça arrive. Mais donc il y en a qui prennent le parti d'essayer d'être bon.
Non mais là t'as
juste
pas, là,
sans
alors
être,
là on
sans
dévie,
bon.
On dévie et non, là excuse-moi t'as pas fait... compris parce que mais j'ai si. Pas parlé de beauté ce soir. J'ai parlé
si,
de retenir. J'ai parlé de retenir que,
oui,
une
de retenir
victoire
que la
vainqueur.
Victoire. Donc on oublie tout le reste même si c'est pas beau. On est revenu un peu sur ce débat là quand même. Jean-Louis nous l'a dit, ça me rappelle le débat qu'on avait eu là-dessus.
Oui, mais après
tu l'as dit, Jean-Louis.
Oui, non, bien sûr. Moi, j'y ai pensé aussi tout de suite. Hein.
C'est un peu, il y a une petite corrélation quand même, quoi. C'est
oui, mais
ceux qui veulent retenir que le résultat, j'en fais pas partie parce que c'est pas tout le temps le cas. Je suis d'accord avec toi sûrement dans
plein
de situations.
Moi, je généralise. Hein. J'enterre cette réflexion. Pour moi, elle est totalement antinomique du sport. De
ouais,
l'appréciation
mais,
du sport.
Pas,
retenir,
pas tout le
retenir
temps pour moi, en
ça,
fait. C'est
pour,
là
moi c'est, pour moi, c'est un des aspects. C'est quand j'étais môme que je lisais mes encyclopédies et que j'essayais de retenir qui avait gagné quelle année. Ok. Ok, bah ça, ok, tu retiens.
Oui,
et puis
après,
t'en fais quoi?
Ben
rien. Mais là, c'est sur le PSG. C'est le bouquin que tu lis aux chiottes, en fait.
Si on ramène ça au PSG.
Après, si tu veux lire un roman avec une belle histoire, bah, tu le lis pas aux chiottes. Donc, la ligne de résultat,
oui.
c'est le bouquin que tu
chiottes. Je suis d'accord avec toi, mais quand t'es dans la position, en plus du lecteur, quand t'es dans la position de l'acteur, c'est déjà pas pareil.
Mais même l'acteur, il classe ses victoires.
Oui,
pour
celui qui gagne souvent, je suis d'accord avec toi.
Celui qui gagne jamais, il retient la seule fois où il a gagné, évidemment.
Et, voilà. Et parfois, évidemment, c'est dans un contexte ou avec une manière qui est peut-être pas celle qu'on adore, mais parfois efficace.
Pour revenir au PSG, toi, tu trouves que c'est un très beau titre de champion, que ça fait partie des plus beaux du PSG.
Moi, ouais.
On va voir ce qu'en pense Greg.
Mais moi aussi. Hein.
Oui.
La frustration de beaucoup.
Attends, je voudrais donner la parole à Greg au 32-16.
Mais la frustration de beaucoup, elle vient.
Allô.
Bonsoir Greg. Elle vient d'autre chose. Elle vient du parcours en Ligue des Champions. C'est tout. Il y a personne qui va te dire qu'en Ligue 1 c'est pas un beau parcours. Ou alors le mec est un abruti quoi. J'espère que c'est pas l'avis de Greg. Mais
Greg.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Greg.
Alors pour la première fois depuis que j'écoute l'After, c'est-à-dire depuis 12 ans, je crois que ça va être la première fois où je vais pas être 100% d'accord avec Daniel Riolo. Daniel d'ailleurs dont je viens de finir l'excellent autopsie du sport français que je conseille à tout le monde.
C'est gentil. Merci beaucoup.
En prix. Moi,
c'est
j'en ai
50 euros
peu...
la pub comme ça.
Voilà, exactement. Non, moi j'en ai un peu marre qu'on évalue la saison du PSG sur leur épopée européenne. Je vais vous expliquer mon propos, vous allez comprendre, je pense que vous allez me rejoindre un petit peu. On voit que Paris a été champion hier exactement au même moment que Manchester City avec le même nombre de points que leurs poursuivants en Angleterre. En France, on a eu le même nombre de points avec notre second. Est-ce qu'on dit en Angleterre que City a outrageusement surdominé le championnat anglais? Non, on ne dit pas ça. On dit qu'il a fait un très beau champion. Et d'ailleurs, je suis le premier à le dire. Pourtant, leur épopée européenne, finalement, s'est mal terminée. Et au final, si vous regardez sur les 10 dernières années, les 5-7 dernières années, on va dire, c'est rare que City sorte même des poules, d'accord? Ou au final, ils font 8e de finale, voire quart de finale maximum. Ils sont une seule fois arrivés en demi-finale et ils sont sortis.
Mais ils jouent pas le même championnat que toi, Greg.
On est oui, mais
ils jouent un championnat beaucoup plus difficile que le tien.
Je suis d'accord. Est-ce que c'est de notre faute si on est dans le championnat français?
Mais c'est pas de ta faute, mais t'es obligé de le prendre en compte, c'est tout.
On est d'accord. Mais le problème, Daniel, avec ça, c'est qu'à force de dévaluer nos propres titres, de dévaluer notre football, tu sais ce qui se passe quand ils arrivent devant des Barça, devant des Real de Madrid, on fait des complexes d'infériorité. Et on voit bien que l'année dernière, le match contre le Barça, c'est qu'un problème mental. On voit que le match de Real, le match retour, ce n'est qu'un problème mental. Moi, je suis persuadé que dans la tête des joueurs du Paris Saint-Germain, quand ils affrontent des grosses équipes, ils se disent, nous, de toute façon, ce qu'on gagne dans la semaine, on a tellement un championnat facile que quand on va se retrouver face au gros...
On n'est pas fautifs de ça, nous. Hein.
Oui, mais Greg, on avait la discussion dans Team Dugas cet après-midi, et l'exemple du Bayern est revenu assez vite. Je suis pas convaincu que la Bundesliga, elle est sans doute un peu supérieure à la Ligue 1, mais il n'y a pas non plus des années-lumière d'écart, et le Bayern arrive quand même à être compétitif en Europe. Le problème, c'est l'exigence que tu mets au quotidien au club, qui est pas toujours là au PSG. Et moi, juste... Juste mon avis vite fait quand même sur le titre du PSG. Moi, je trouve quand même que ce qui dévalue le titre du PSG, ce sont les incohérences globales du club. C'est-à-dire les
fois
où tu travailles mal. Et ça, on l'a
absolument
dit tout
d'accord.
au long de l'année. Et moi, je peux pas m'empêcher de me dire que si tu travailles mal et que t'es champion aussi facilement, ça veut dire que les joueurs, ils sont quand même un peu en dilettante et ça enlève un peu du charme au titre. Quoi.
Et Greg, si je veux aller dans le sens de ton raisonnement, c'est-à-dire qu'on dévalue tout le temps les performances sur le plan national du Paris Saint-Germain et donc c'est pour ça ça que les joueurs, quand ils arrivent sur le plan européen, ils font un complexe d'infériorité. Bah tu sais quoi, tu mets le doigt sur le gros problème du Paris Saint-Germain pour moi depuis plusieurs années, c'est le mental. Parce que si t'en es arrivé à toi joueur du PSG à t'occuper de ce que les autres pensent sur tes performances au niveau national et pas être sûr de ta force, pas en confiance, pas avoir de caractère le jour J ou quand il faut parce que tu sais qu'en face c'est plus fort, le problème c'est toi, c'est pas ce que les autres
et
disent.
Et on est d'accord. Et pour moi c'est le problème principal du PSG aujourd'hui, c'est un problème mental. Et pour revenir sur l'exemple que donnait Jean-Louis avec le Bayern c'est un club allemand avec une culture allemande. Les mecs, même s'ils surdominent leur championnat, ils ont une force de caractère en eux qu'on arrive à leur transmettre. Et aujourd'hui, nous, on a personne
dans le club pour le faire. Aussi parce qu'il y a une institution qui t'oblige à avoir ça au quotidien.
La force, elle vient aussi du club. La force, elle vient d'un championnat qui a une histoire un petit peu plus forte. Et effectivement, je ne sais pas si les Allemands dévaluent leur compète comme nous, on a l'habitude de le faire. Mais peut-être que... Parce qu'on va me dire, ouais, mais c'est toi, tu participes aussi à la dévalorisation. Absolument, je l'assume. Peut-être que si nos clubs continuent presque chaque année à avoir de bons résultats en Coupe d'Europe. L'année dernière, deux clubs en demi. Cette année, on en a un autre qui vient de se qualifier en demi. Peut-être que ça nous donnera envie. D'abord, ça donnera aux joueurs un peu plus de confiance en eux. Et également au moment d'affronter le PSG où ils ne viendront pas disputer des matchs en étant résignés, peut-être qu'ils auront un peu plus confiance, peut-être qu'un club comme l'OM avec cette demi-finale va gagner en confiance, va continuer à grandir, peut-être que Lyon peut suivre. En fait, tout ça n'est qu'une suite de choses. Ça va être des conséquences pour que notre championnat redevienne un championnat avec des acteurs qui ont confiance en eux, pour que finalement les équipes boostent un peu aussi, soit des adversaires un peu plus costauds. Là, on est revenu quand même à un championnat où le deuxième va être à une vingtaine de points. C'est quand même incroyable. Oui. C'est beaucoup trop. Alors tu vas me dire, ouais, le Bayern aussi. Oui, mais
non, c'est vrai que c'est trop, mais c'est pas une raison pour que les joueurs prennent ça comme excuse, comme l'a fait Berchiche d'ailleurs dans son interview.
Alors là maintenant, on a des clubs qui éventuellement, je l'espère, vont redevenir ambitieux. Un club comme l'OM, demi-finale de Coupe d'Europe, ça suit la performance de Monaco, de Lyon. Donc là, nos clubs forts, l'année dernière, il y en a deux qui se sont tapés de belles satisfactions. Mmh. Cette année, il y en a un. Bon, voilà, il faut qu'une spirale s'engage, tu vois, pour que la dévalorisation cesse.
Greg, merci d'être venu au 32-16. À bientôt dans l'after. Ciao. Nouvel événement à Brest. Brest-Lorient, la Ligue 2, Xavier Grimaud.
2-0 toujours pour les Brestois, mais Lorient qui va finir à 9 avec Jimmy Cabot. Il a un peu dégoupillé. Hein. Cabot, il a fait un tacle sur Castelletto, le défenseur brestois. Il y va clairement pour lui faire mal. Donc rouge totalement logique à l'image du match des Lorientais qui sont passés au travers. Donc 2-0. Brest va gagner, alors je sais pas quoi dire, pas le derby, mais va gagner le match en tout cas. pour le sien, on va rappeler les buteurs, c'est Charbonnier et Berthomier pour les Finistériens qui vont se relancer dans la course au barrage. Attention justement, 1-2-3 dans la surface, peut-être le 3-0 avec Butin devant le but. Oh, la tentative de Madjer de Gatien, c'était un petit peu ambitieux, il aurait peut-être dû mettre tranquillement le pied gauche pour mettre un petit 3-0 au voisin lorientais. 8 minutes encore à jouer, 2-0 donc pour Brest à Francis Leblay face à Lorient.
Merci Xavier, avis tranché de Pierre Ducrot dans une seconde. Payet à la Coupe du Monde, doit-il y aller? Va-t-il y aller? Pierre va vous donner son avis et vous pourrez réagir au 32-16. À tout de suite dans l'after sur RMC.
RMC, le super football show, l'after foot, Jean-Louis Tour.
Pierre Foucault dans l'after comme tous les lundis soirs. Les questions de l'after dans un quart d'heure. Saint-Etienne, Monaco, encore un peu de PSG, Metz également. On va essayer de parler de tout ça dans les questions de l'after. Donc restez bien avec nous sur RMC et sur BFM Sport. Nouveau but en Ligue 2. Je vais tenter un enchaînement que Daniel n'approuvera pas. La messe est dite dans le derby, Xavier Grimaud.
Ah oui, elle est dite. 3-0 pour les Brestois. Le troisième but marqué à l'instant par Edouard Butin. Un match catastrophique de Steven Moreira, le défenseur lorientais. Il vient encore de faire un cadeau aux Brestois. La finition de Butin est pas mal face à Petkovic. 3-0. Lorient est à 9, hein, on le rappelle, avec les cartons rouges contre Wissa et Cabot. Ouais, exactement. Lui qui était entré en jeu il y a 10 minutes. Donc, très belle soirée pour les Brestois qui vont vraiment se relancer au classement. 3-0, ça aurait peut-être que ça s'arrête pour l'équipe de Mickaël Landreau qu'il rentre rapidement dans le Morbihan parce que là, c'est un calvaire. 3-0, il reste 2 minutes 30, Jean-Louis.
Merci Xavier. Jingle Pierre Ducrot, son avis tranché, c'est maintenant.
Mais moi, si je suis coach de Lyon là aujourd'hui, je me bouffe les couilles.
Oui.
Ah, non, plus aujourd'hui.
C'est-à-dire?
Bah, si je suis coach de Lyon aujourd'hui, maintenant, je ne me les bouffe plus.
D'accord, très bien. Voilà. Très bien. Donc Pierre, tu veux pas parler de Lyon,
non,
tu veux parler
tout.
De l'OM et de Dimitri Payet.
Ouais, effectivement, Dimitri Payet, j'avais envie de parler de lui parce que si on prend les 7 premiers mois de Dimitri Payet en Ligue 1 cette saison, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, mis à part quelques-uns peut-être, pour dire qu'on était à peu près sûr qu'il aille pas en Russie après ces 7 premiers mois là. Si on s'attarde sur le dernier mois et demi, voire 2 mois même pour être un peu plus large qui correspondrait au retour de forme et aujourd'hui à presque à l'état de grâce de Dimitri Payet, ça semble un petit peu moins fou d'imaginer Didier Deschamps le ramener en Russie. Alors c'est un peu déstabilisant, c'est un peu déroutant parce qu'on est en face d'un problème de façon plus générale là, qui tombe Payet, mais qui concerne les sélectionneurs et nous quand on s'amuse de façon un peu plus légère bien sûr, mais à faire notre sélection pour ces tournois finaux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend les joueurs qui sont réguliers, qui pour un sélectionneur méritent sur la longueur leur place dans une sélection parce que ils ont fait une saison complète à un certain niveau, voire même plusieurs saisons, quitte à parfois prendre des joueurs qui sont un peu moins bons les semaines ou les mois avant l'événement. Ou alors est-ce qu'on décide de prendre des joueurs qui sont en forme, très en forme, les plus en forme au moment M où on fait sa sélection. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs au moment M, mais bon, enfin bref, Daniel, tu me diras. Après le derby,
l'instant T.
Voilà l'instant T. Voilà, c'est oui, c'est vraiment moins casse-gueule l'instant T.
Ouais, pourquoi l'instant T aussi. Hein.
Ouais, c'est vrai. À la limite, moment M, c'est plus logique.
Alors H, ouais. Ouais. Ouais, alors H, c'est bien.
Bon bref, est-ce qu'on va plus là-dessus? Si je dis ça effectivement et que je me suis écarté un peu de Dimitri Payet, c'est pour y revenir quand même juste après, parce que Dimitri Payet nous a énormément déçus de par son irrégularité cette saison et même alors avec son club, mais même un petit peu avant en équipe de France. L'Euro 2016, ça avait été un peu mitigé pour lui. Et pourtant le talent qu'il montre aujourd'hui, en tout cas quand il exprime l'immense talent qu'il a comme aujourd'hui, il est bon, voire très bon, et souvent même très décisif. Et là, en ce moment, on le voit, il est très décisif pour Marseille. Il n'y a pas eu pléthore de matchs comme celui de Dimitri Payet en quart de finale d'Europa League à se mettre sous la dent cette saison. Et pourtant, ce qu'il est en train de faire en ce moment nous font à peu près tous douter. Moi, j'ai pas honte de dire que effectivement, il y a encore un mois et demi, j'aurais pas pris Dimitri Payet pour un sou à la Coupe du Monde, et que aujourd'hui, quand je vois le match qu'il fait contre en Europa League, tu te dis c'est peut-être ce genre de joueur, ce genre de joueur-là à un moment donné dont t'as besoin pour aller à un moment donné faire la différence parfois dans des compétitions comme ça, dans des tournois. Comme la Coupe du Monde.
Donc tu le prends sur le mois et demi.
Je me serais énormément posé la question. J'ai même pas encore la réponse aujourd'hui parce que c'est très compliqué pour moi de savoir déjà si je prends ce joueur-là parce qu'il est très irrégulier avant, mais juste sur sa valeur actuelle. En face de ça, il y a une donnée qui est à prendre en compte, c'est que les concurrents de Dimitri Payet en équipe de France, il y en a pas un, je crois, qui fait une saison pleine, qui fait une saison régulière et qui est au-dessus aujourd'hui de tout le monde. On peut prendre Coman, il y a rien de flamboyant. Lemar, on en parlait tout à l'heure. Mis à part son match avec les Bleus, il a énormément de mal à enchaîner des performances. Martial à Manchester, c'est pas sa meilleure saison. J'en oublie sûrement, mais Dembélé à Barcelone qui a été longtemps blessé, qui était pas là. Enfin bon, il y a tout ça aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je suis sélectionneur, je pense que je le prends parce que sur sa forme du moment, par rapport aux autres, eh ben j'ai l'impression qu'il me servirait plus. Je dis pas peut-être qu'il le mériterait plus.
Et donc tout ça est très inquiétant.
Ben quelque part, alors pas pour Payet, parce que Payet
derrière ton avis, ce qu'il faut comprendre, ceux qui étaient devant lui sont tous dans des situations délicates.
Bah c'est assez factuel hein, quand tu regardes les saisons qu'ils ont faites.
Ça veut dire que c'est pas très bon signe quand même. Peut-être à citer que des joueurs offensifs de l'équipe de France, et combien il y en a qui sont vraiment en forme, donc Griezmann, Mbappé, et après c'est du ponctuel. Giroud qui est nul et qui met deux buts, Payet qui est nul et qui fait un bon match, Lemar qui fait un bon match qui disparaît, qui revient pas, qui fait un autre bon match et qui disparaît.
C'est bourré de talents.
Donc en fait t'en as nulle part.
Mais tu sais pas quand est-ce que ça va pouvoir s'exprimer.
Aucune certitude. Donc c'est pour ça que tu te reposes la question de Payet, parce que Payet au final il fait un excellent match contre Leipzig, mais il a fait que celui-là parce que dans ton mois et demi.
Oui, il est mieux. Après le match parfait, c'est effectivement celui-là. Après il en a fait d'autres quand même mieux.
Pierre, c'est en fait. Rien n'a changé. Contre Lyon, c'est un match capital. Il est pas bon.
Ce qui a changé, c'est qu'il est revenu en forme.
Dans les gros matchs, il a toujours un petit peu de mal.
Comment on fait pour savoir c'est à quel moment qu'on détermine quand il est en forme ou pas?
Là, ça se voit quand même. Là, il est un peu plus en forme depuis
quand
un mois.
En fait, tu le vois quand il est bon, c'est ça? Ou quand il arrive à faire 3 matchs, 4 matchs? Quand il arrive à être bon contre qui?
Oui, contre des petites équipes. Mais à l'euro, il t'a rendu des services contre ces petites équipes-là. Là où d'autres joueurs, Martial, Coman,
tu sais même pas, je le vois.
Si tu prends, d'accord. Dans ce cas-là, il faut prendre des mecs pour petite équipe, moyenne équipe, grosse équipe. Un mec qui sera en forme un jour, deux jours, un mois. Un mec qui fera, pas de problème, alors, d'accord.
Tu sais à quoi tu vois des fois que Payet est revenu un peu plus en forme? Sa façon d'éliminer. C'est pour moi quelque chose de...
Moi je te dis pas qu'il est pas en forme.
Il y a un signe où quand il part sur son extérieur comme ça, ou quand sur 3 mètres il va beaucoup plus vite à certains moments qu'à d'autres, qu'il est déjà revenu dans un état de forme un peu plus correct.
Ce qui t'embête, c'est qu'un mec aussi régulier, sélection, ça veut dire qu'il n'y a pas un autre gars qui s'est détaché.
Exactement.
Voilà, si tu regardes, ou à moins que j'en oublie, mais...
Moi je vais te dire,
j'ai bien peur que...
Pour tout te dire, moi l'histoire de la sélection, franchement j'en ai rien à cirer. C'est un sujet qui m'intéresse pas. C'est un sujet, à chaque fois que j'entends, il mérite d'aller en équipe de France, j'entends ça. Je dis pas pour toi, puisque toi tu l'as dit, au contraire. Mais la plupart du temps, tu dis, ce mec-là, équipe de France, ok mec. Et à quel moment tu dis qu'il t'enlève? Parce que c'est bien beau. Tu peux mettre tout le monde si t'as envie. Tu peux y aller à 35, à 42, tout ça. Mais à un moment, tu dois composer un groupe, regarder des postes, regarder ce que le mec apporte, à quel moment, quoi, comment.
C'est le problème quand t'as pas des joueurs qui sont au-dessus des autres, quoi.
Tu fais historique, forme du moment. Capacité dans le collectif, avec quel système t'y vas? Non, c'est
quel état d'esprit.
L'autre peut y aller, l'autre il est fort en ce moment, l'autre machin. C'est des discussions qu'à chaque fois je trouve totalement inutiles parce que on n'explique rien. Alors là, bon, toi t'as pas fait ça parce que tu nous as dit effectivement les autres sont pas bons, tout ça. Ouais, ok. Et si jamais, là, toi, tu dis ça ce soir, si jamais sur les matchs, les demi-finales, il apporte pas ce qu'il doit apporter contre Salzbourg, et que l'OM se fait taper, ce qui est,
malgré tout, on le souhaite pas possible. Et inversement, si t'as un Coman qui est extraordinaire.
Donc en fait, la sélection, c'est une affaire de chaque semaine, on a un avis différent. C'est pour ça que je dis tout le temps que c'est un sujet qui m'intéresse pas. Parce que chaque semaine, tu peux avoir, c'est comme l'histoire du baromètre. Alors ça remplit les rubriques, et ça remplit les cases des journaux quand tu sais plus quoi faire dans une émission, dans un canard. Tu fais baromètre. Ah là il est en forme. Ah là il est pas en forme. Ah là il est en forme. Ouais, non. Ok, génial. Et alors quoi?
On va l'avouer. C'est un peu ça. J'avais pas d'avis tranché.
Je me défends parce qu'il y a un baromètre dans Team Dugas. Je vais quand même me défendre.
Et voilà.
C'est que en bas, d'accord. Mais tu prends des infos quand même des joueurs le week-end, savoir qui est bon.
Tu peux faire plus ou moins bien.
Ça, je suis d'accord avec toi.
C'est des infos à donner.
Ça, bien sûr. Mais que ça te conduise à dire. Voilà. Que ça te conduise à dire. Bon, alors lui dans la liste. Alors en fait ta liste tu l'as fait à partir du mois de janvier, tu l'as fait 100 fois. Chaque semaine tu fais une liste, tu l'enlèves, tu le mets, tu l'enlèves, tu l'enlèves.
C'est pour ça,
que tu fasses un état de forme, je suis d'accord avec toi. Voilà. OK, mais que à chaque fois tu parles de la liste de machin et puis que tu dises pas qui t'enlève et puis que des fois on me dise "Ouais, je prends Payet mais je prends pas un tel." Dis, attends, mais rien à voir, ils ont pas à voir les
deux. On nous a demandé une chose.
Non, attends, je te redonne la parole mais juste avant, j'ai envie de faire plaisir à Daniel, on va dans un endroit où il y a aucun joueur qui fera la Coupe du monde avec l'équipe de France, c'est à Brest pour valider le score entre Brest et Lorient, Xavier Grimaud.
Ouais, c'est terminé dans le derby, victoire large et facile des Brestois, 3-0, les buteurs Charbonnier, Berthomier et Butin. Lorient a coulé, Lorient a même fini à 9 et Brest revient donc à un petit point seulement de la 5e place synonyme de barrage. 3-0 pour les Bretons, enfin pour les Finistériens plus exactement.
Merci Xavier. Et en Jeep Elite en basket, victoire de Nanterre 89-78 face à Bourg-en-Bresse. Pierre, tu voulais dire quoi? Tu voulais ajouter un mot, tu m'as dit je veux ajouter un mot.
Non, c'était pas si important que ça. J'allais rebondir sur ce que disait Daniel. C'est pour ça que je trouvais débile, pardonnez-moi, qu'on nous demande de nous faire des listes, la liste des bleus qu'on sélectionnerait. mi-février ou fin février, je crois. C'est quelque chose d'impossible, quoi.
Oui, mais ça passionne les gens. Qu'est-ce que vous voulez? Ça passionne les gens de faire ça. On a lancé ça sur le site, sur rmcsport.fr. Non, chacun peut faire ça.
Moi, je préfère.
Donc voilà, ça alimente les discussions. Alors que vous, vous ayez du mal à apporter une plus-value nette dans votre rôle de spécialiste, nous, il nous manque quelque chose.
Il nous manque quelque chose par rapport au sélectionneur qui est essentiel. C'est la vie de groupe. On l'a pas à l'extérieur, nous.
Oui.
Et ça, dans les choix du sélectionneur, si, c'est super important.
Mais bien sûr que c'est super important. Après, ça n'empêche qu'on peut faire notre liste des 23 et puis
de façon plus légère.
Quand
tu fais ton petit baromètre et tes états de forme là, en ce moment ça doit pas aller très haut le baromètre là.
Là non, c'est vrai que c'est pas la folie.
Quand tu fais la défense avec les demi-loups là, il y en a pas un qui est au-dessus de l'autre là.
C'est vrai.
Les gars devant là, t'as quoi, t'as Griezmann qui tient la route,
qui s'est blessé. Il y a Giroud qui a été bien fait.
Ah, dis donc, ouais, Sidibé,
ouais,
là,
j'ai pas compris la blessure.
Il y a Debuchy qui explose.
Okay. On sait ce que c'est la blessure de Sidibé.
C'est une lésion.
Mais lésion du genou, on sait pas.
Ça n'existe pas. On saura demain.
Debuchy joue attaquant, il est droit, tout en même temps et avant-centre. Il fait tout.
Ah bah Debuchy, il va y aller.
Lui, il est revenu au bon moment. Après, il y a qui d'autre comme arrière droit dans le foot français?
Debuchy, vu le nombre de buts qu'il marque.
Non, j'aimerais savoir qui y a comme arrière droit.
Daniel.
Ah oui, c'est vrai. Bon,
vu le nombre de buts que marque Debuchy, tu peux le mettre dans le, tu peux le mettre un peu plus haut.
Tu peux le mettre en centre.
Donc, Pavard, Debuchy à la Coupe du Monde, alors les deux.
Bah, ça dépend de Sidibé. Il est pas forfait pour la Coupe du Monde encore, hein, pas s'emballer.
Sidibé, je veux dire, enfin, ok. On a l'impression, le gars, tout est écrit pour lui, Coupe du Monde, machin. Mais non, on parle de son année ou pas?
C'est qu'il y a pas beaucoup de monde, quoi.
Non, mais attendez. Est-ce qu'à un moment, il y a des gens qui parlent de la saison de Sidibé? C'est-à-dire, l'année dernière, comme tout Monaco, il a été en surperf. Mais cette année, on a vu la saison de Sidibé.
C'est plus dur.
Ou même quand il a joué en équipe de France, mais personne n'en parle. C'est le gars, on a l'impression, je sais pas, on lui a filé un collier ou totem de machin truc de Koh-Lanta là.
Ah, parce qu'il y a personne. Ça...
Non, mais il est nul. Mais il est nul.
L'année dernière,
ils sont tous bons à Monaco. Et ils ont tous surperformé.
C'est tout.
Non, mais c'est intéressant ce qu'a dit Daniel, parce qu'on lui a filé le totem d'immunité, et en plus le collier, ou s'il a pas le totem, il se sauve avec le collier.
Ah oui,
le collier, c'est quand t'as pas le totem et que tu sors le collier et que t'es invincible.
Ouais. Pour tout dire, j'ai regardé deux fois
Sidibé, tu lui as mis les deux.
Je sais quoi.
J'adore.
J'ai toujours entendu parce qu'on en parle, mais j'ai jamais réellement regardé.
Le collier, c'est encore mieux. Franchement, ça rebat toutes les stratégies.
Tu surprends, c'est génial.
Bon. On en reste là. Tu voulais refaire encore ta liste là. Tu voulais encore rajouter
des noms. Je cherchais le verre. Sidibé, s'il avait un collier là, quand il joue là, non?
Oui, oui.
C'est les colliers coquillages. C'est quand même imposant.
Non, mais il les cache les colliers. Bref, dans un instant les questions de l'after, évidemment, et puis les drôles de dames, bien sûr. L'after continue jusqu'à minuit. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live, bien sûr. À tout de suite.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, Pierre Dupraux et nos drôles de dames. Elles arrivent dans un quart d'heure, les avis tranchés concernant le Bayern, concernant Manchester City, concernant Donnarumma. C'est dans quelques minutes, donc restez avec nous dans l'after. Avant les questions de l'after, le hashtag RMC Live et Vévert nous signale quand même qu'on a oublié de citer au poste d'arrière droit Bounassar. Et oui, on va se retrouver avec Bounassar à la Coupe du Monde, on va devoir se mouiller la nuque, nous dit-il. Eh oui, Daniel, tu l'avais pas noté celui-là.
Oui, non, là, non, effectivement.
Les questions de l'after, on y va.
Ah.
Première question, comprenez-vous l'absence hier au Parc des Princes de Neymar? Est-ce que c'est choquant? Est-ce que c'est anecdotique? Du gars pousse un gros coup de gueule cet après-midi là-dessus.
Oui, j'ai entendu. Moi, je suis... Hier, faut se mettre en tête que pour le club, rien n'était organisé pour le titre, parce que le titre va être célébré quand on remet l'hexagone le 2 mai, je crois, c'est ça,
au prochain match.
Et que la célébration réelle du titre pour le club, ce sera à ce moment-là. Là, effectivement, ce serait un peu plus gênant que Neymar n'y soit pas. Là, honnêtement.
Donc, il n'était pas là contre le Real, il n'était pas là en finale de Coupe de la Ligue. Là, il n'est pas là hier, alors que tu sais quand même qu'avec une victoire, tu vas être champion. Et en même temps, il poste une photo où tu le vois en train de jouer au poker tranquillement chez lui.
Bon, il est dans sa rééduque, il est là-bas. Enfin,
bon, très bien. Daniel, ouais, moi, pas ça choquant.
Non, moi, je comprends pas même sûr. Pas une seule seconde que Pierre ne puisse pas être choqué par ça. En fait. qu'un ancien joueur.
C'est vrai. Ça.
Non, parce qu'on est plus.
Tout le monde ne trouve pas.
Mais on est plus là-dedans, Daniel.
Eh ben, si on est plus là-dedans, c'est qu'on est plus dans le foot alors.
Mais ouais, mais non, parce que ben oui, alors ça,
c'est un vrai problème.
Tu sais quoi? À ce moment-là, quand tu auras un vrai esprit club ou une vraie unité avec une vraie institution, etc., je te dirais là, c'est pas normal parce que je suis sûr que l'institution. Ah bah ça c'est un autre problème ça.
Ah bah
ça c'est
une autre question. C'est ça qui est choquant. Alors, dans
donc tu comprends l'absence de Neymar, alors, mais en même temps tu déplores le manque de force.
Mais bien entendu, reprenons depuis le début. La question de Jean-Louis, c'est est-ce que tu comprends l'absence de Neymar?
Oui.
Et ben je la comprends parce que t'es au Paris Saint-Germain et que pour l'instant il y a pas d'institution. Le jour où il y aura une institution qui mettra.
Parce que là Pierre, t'es pas t'expliques. J'attendais. Permets-moi, mais ton explication elle veut rien dire.
Mais bien sûr que si. Le jour où t'auras une vraie institution avec une vraie hiérarchie sur tout ce qui se passe pendant la saison.
Est-ce que t'imagines ça au Bayern ou à la Juve?
On compare pas la même chose.
Même sans aller chercher Pierre, si tu as la place de Neymar, est-ce que t'es au stade avec tes potes pour fêter le titre ou est-ce que t'es chez toi?
Mais il s'en branle, c'est pas ses potes.
J'en sais rien, je suis
mais
pas à sa place.
Mais t'es au stade 100 fois, Pierre.
Mais tu sais quoi,
c'est
je suis
sûr.
Pas...
Même si le club te permet de ne pas y être, tu y vas quand même.
Parce que je suis pas Neymar, mais on veut comparer des choses qui sont pas comparables. Le jour où le PSG fera les choses dans l'ordre, le départ d'une saison.
Mais l'ordre, c'est déjà ça.
Oui, mais c'était pas la question. Là, c'était la question.
On a l'impression qu'il faut te poser une question précise pour avoir une réponse.
Bien sûr qu'il faut poser une question précise pour avoir une réponse précise.
Moi, je suis d'accord avec Dugas. Mais il n'y a pas que ça qui est délirant. Ce qui est délirant, c'est qu'il soit parti si longtemps. Ce qui est délirant, je l'avais dit 1000 fois, mais c'est l'espèce de photo sur la plage avec les dirigeants, là, genre, on fait la photo vite fait, puis après il y a le rosé, le barbecue derrière.
Moi je comprends son absence aujourd'hui. Voilà pourquoi. Ça revient. Mais
franchement Pierre, je comprends pas ton explication. Pour moi ça n'a aucun sens ce que tu dis.
Mais si. L'absence de Neymar est choquante et tout le reste c'est quoi? C'est comment?
Ça coule de source, c'est la même chose.
L'attitude des dirigeants parisiens qui vont prendre la balle photo, c'est choquant. C'est pour ça que je te dis que quand t'as une attitude comme les dirigeants du Paris Saint-Germain en ce moment, comprends que Neymar ne se sente pas obligé de venir voir le titre.
Ce que dit Pierre.
C'est tout.
J'ai compris.
Ça va ensemble.
En fait, ça ne t'étonne pas de voir ça, vu la situation globale au PSG.
Exactement.
Mais c'est pas pour ça que tu l'acceptes.
Ah, c'est pas pour ça que je l'accepte. Je m'en fous, je l'accepte ou pas. Ça a aucune incidence. Mais c'est pas pour ça que j'apprécie. Voilà.
On est tous d'accord.
Ça, c'est autre chose.
C'est terrible aussi qu'il soit depuis si longtemps pas là, qu'il puisse pas se soigner ici, qu'il soit pas là.
Je pensais que c'est juste au début, quelques semaines. Pourquoi pas
là, parce que c'est entendu avec les dirigeants. Ça aussi, c'est pareil.
Donc c'est nul. Qu'il soit pas là le soir, effectivement, où le titre devient officiel. Non, mais de toute façon, tout est nul dans la façon qu'on a eu de traiter. Le transfert de ce joueur, le fait que ce soit le roi qui fasse ce qu'il veut, alors que c'est exactement tout ce que les observateurs, nous y compris, on redoutait. On disait, mais c'est tellement gros comme une maison, au moment où il signe. On dit, c'est tellement gros comme une maison.
Et surtout que t'as déjà fait les erreurs avec Ibra avant.
Voilà. Que
tu te dis tu vas pas le refaire.
Que ils vont pas le faire.
Ah oui.
Non mais c'est tellement gros.
Les erreurs sur le transfert, tu parles de quoi?
Non, sur la gestion au quotidien.
C'est comme une maison au départ de dire on le prend. Et puis il va faire ce qu'il veut, il va dominer le club, il va s'essuyer dessus. Voilà. On dit ah non, non là ils vont pas le faire.
C'est pas
qu'ils le font, ils font pire.
Alors,
mais je rappelle quand même que l'incompétence des gens qui dirigent ce club. Certains postes.
Alors, moi, voilà, j'aimerais bien qu'on fasse synthétique là pour mes petites dernières questions. Là, j'ai bossé pendant des jours et des jours.
Franchement, vas-y.
Question sur Ghislain Printemps. Est-ce que le gassé de gassé est aussi bon que le gassé de blanc?
Ah oui, là, t'as vraiment voulu rigoler, là.
Bah quoi?
Aucune idée, je n'ai pas de réponse à cette question.
Est-ce que le Ghislain Printemps, c'est lui qui fait tout à Saint-Etienne?
Non, est-ce que le Ghislain de gassé est aussi bon que le gassé de blanc?
Non, Printemps, c'est le gassé de gassé.
Eh ben alors c'est bien, ça veut dire que Laurent Blanc retrouve un club puisque Gasset est pas dispo, il prend Printemps.
Bah peut-être oui.
Voilà, super.
Monaco peut-il craquer à la deuxième place?
Moi je pense pas.
Sur 6 journées, je pense pas.
Ils ont 4 points d'avance.
Je crois pas.
4 points d'avance.
Il va falloir aller les chercher quand même.
Non, je pense pas non.
Très bien. Jardim est-il trop frileux dans les matchs en jeu? Alors là, c'est pas pour toi Pierre parce que tu as répondu hier dans l'after, c'est Ali Benarbia qui pensait ça. Daniel, qu'est-ce que t'en penses toi?
T'aurais dû me laisser répondre, je me serais peut-être contredit tout seul, t'aurais rigolé.
Il aime effectivement à chaque fois qu'il joue contre une équipe pressée plus forte. De toute façon, il prend pas le jeu. L'année dernière, sa meilleure saison, effectivement, c'était en jouant le contre à la perfection dans un système hyper huilé, hyper rodé. Et c'est vrai que, il a du mal quand il sort de ça. Jardim, en fait, la grosse révélation, c'est l'année encore d'avant contre Arsenal.
Ouais.
C'est vraiment le match. C'est typiquement le jeu de contre. Contre-attaque rapide, bim.
Il est à l'aise là-dedans.
Et l'année dernière, il a fait la saison extraordinaire en étant très habile et en jouant de cette façon dans les gros matchs. Et là, ouais, effectivement, ouais, je suis un petit peu d'accord avec ça. Ouais, il a ce côté un peu frileux. Ouais, ça c'est vrai. Ouais,
mais
ouais.
Il
répond plus. Il est plus dans la réaction que l'action.
Ouais, ouais, mais ce qu'on prend nous pour de la frilosité, lui, je pense qu'il le prend comme une certaine organisation tactique. Qui est pas du tout de la frilosité, qui est effectivement
ouais, c'est vrai, c'est peut-être pas bien dit,
et exploser et contrer, jouer les coups à fond quand même offensivement, enfin voilà, c'est peut-être pas être frileux, c'est une certaine conception.
C'est vrai. Le PSG doit-il faire jouer Ben Arfa une fois d'ici à la fin de la saison pour qu'il soit champion?
Alors je vais répondre précisément, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on a à foutre?
Bien sûr que non, ils vont rester dans ce qu'ils ont fait toute la saison. Sinon, ils sont ridicules.
Ben Arfa champion,
grotesque.
C'est ridicule.
Tout est absolument grotesque autour de ce joueur depuis tellement d'années.
Non, alors, même ta question aujourd'hui.
Alors la question est ridicule, je le sais, mais c'est juste quand même pour signaler que le PSG a tweeté, et vous voyez la photo sur BFM Sport, champion avec tous les joueurs de l'effectif, dont Ben Arfa. Même incroyable que le service com du PSG fasse ça.
Le service com du PSG. Ah, faut vraiment que tu relances là-dessus. Sur les gens qui gèrent ce service.
C'était pas voulu, mais bon, je donne les infos comme elles sont. Dernière question. Est-ce plus méritant de mettre 14 buts avec le dernier de Ligue 1 ou 13
T'as changé la question. Non, mais tu sais quoi, en plus, il a changé la question, il assume pas jusqu'au bout.
Mais c'est pas ça la question. Nolan Roux a mis un but de plus que Kylian Mbappé.
Jean-Louis, ce n'était pas ça la question.
Est-ce que Nolan Roux fait une meilleure saison que Kylian Mbappé?
Je vais ressortir la question comme
mais
elle
c'était
est.
C'était ça. Nolan Roux fait-il une meilleure saison qu'Mbappé?
Voilà, là, tu l'assumes jusqu'au bout.
Ce qui m'intéresse déjà, c'est que Nolan Roux fait effectivement une très belle saison, joueur qui a eu.
Ah oui, non, Mbappé en a un de plus.
Beaucoup de bas et peu de hauts, alors que je pense qu'il aurait dû faire une meilleure carrière.
Oui, j'adore Nolan Roux.
Il est toujours dans les bonnes équipes au bon moment.
Ouais, effectivement.
Ça joue c'est bien ça. Nolan Roux, il a 14 buts et Mbappé 13. Donc il en a un plus.
En fait,
il vaut 181 Mbappé, millions.
Quand tu lis les chiffres comme ça, on en revient exactement à mon avis tranché. Quand on veut parler de sport en ne lisant que des lignes et des chiffres, on ne comprend rien.
On comprend pas. Nolan Roux meilleur que Mbappé. Voilà. Il y a pas de problème. Allez, voilà pour les questions de l'after. On s'est rigolé, on a souri. Daniel s'est énervé contre Pierre. Pierre s'est défendu. C'était génial. C'est l'after, quoi. Dans un instant, on fait la même chose avec les drôles de dames en plus dans le jeu. Le foot anglais, espagnol, italien, allemand pendant une heure. C'est tous les lundis dans l'after sur RMC et sur BFM Sport. À tout de suite. On revient tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot.